Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La divine providence a voulu que cette année, la fête de l'Ascension coïncide avec la fête de Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. Ce n'est pas un hasard. En effet, aujourd'hui, plus qu'au temps de Jeanne, il y a non seulement grande pitié au royaume de France, mais aussi grande pitié dans les cœurs des catholiques français. La France ne sera bientôt plus la France. La religion de nos pères est moquée, méprisée. On brûle nos églises dans une indifférence qui nous fait mal. Pas un chef civil, pas un chef ecclésiastique pour se lever, crier au feu et appeler au combat. Ces deux fêtes s'unissent aujourd'hui pour dilater notre joie et fortifier notre espérance au milieu des malheurs de notre temps. Alors voyons tout d'abord dans un premier point, la glorification de notre Seigneur est source de joie. Avant de souffrir sa passion, Jésus, au cours du discours après la scène, annonce sa future glorification. Il s'adresse à son Père. Je vous ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que vous m'aviez donnée à faire. Et maintenant, glorifiez-moi, vous, Père, auprès de vous-même, de la gloire que j'ai eue auprès de vous avant que le monde fût. Par ces paroles, Jésus demande à son Père que la gloire qu'il a toujours eue en tant que Verbe soit maintenant communiquée à son humanité. Deux raisons nous font comprendre combien l'exaltation suprême de Jésus est juste. La première vient de ce que Jésus est homme et Dieu. À la résurrection, l'humanité de Jésus s'est revêtue de gloire, mais la terre, lieu corruptible où règne la mort, ne lui convient pas. Seul le ciel est un lieu digne de Jésus-Christ, où sa gloire et sa puissance pourront rayonner sur la société entière des élus et des rachetés. La deuxième raison est la récompense proportionnée que méritaient les abaissements incroyables du Fils de Dieu. Il s'est volontairement plongé dans une mer d'humiliation et de douleur pour payer surabondamment notre dette. Et saint Paul résume cela en disant « Il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. » Les actes des apôtres sont sobres sur cet événement. Ils ne nous racontent que le début de l'Ascension. Voici les paroles de l'Épître. À ces mots, Jésus fut sous leurs yeux emporté dans les airs et une nuée le déroba à leurs regards. C'est tout ce que nous savons. Un coin du voile peut cependant être soulevé grâce au psaume de David qui nous parle du Messie et décrive son entrée triomphale dans la Jérusalem céleste. Jésus monte avec le cortège de tous les saints de l'Ancien Testament et viennent à sa rencontre les multitudes de la milice angélique qui se pressent au devant de lui. Alors commence le sublime dialogue qui est raconté dans le psaume de David. Le cortège innombrable qui accompagne Jésus, donc tous les saints de l'Ancien Testament, crie aux gardiens de Jérusalem, de la Jérusalem céleste, « Prince, élevez vos portes, Portes éternelles, élevez-vous. C'est le roi de gloire qui va entrer. » Et les anges répondent, « Et quel est-il, ce roi de gloire ?» Les saints répondent, « C'est le Seigneur. » Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats. Et après une seconde interpellation, qui permet d'exalter une seconde fois les grandeurs de notre Seigneur Jésus-Christ, les portes se lèvent. Elles étaient fermées depuis 4000 ans. Elles sont désormais ouvertes jusqu'à l'entrée du dernier des élus. Les portes sont ouvertes. Jésus entre avec la multitude des saints qui l'accompagnent, et le psaume 109 nous retrace le dialogue entre Dieu le Père et Dieu le Fils. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de mes pieds. » Quand il était sur la terre, notre Seigneur avait dit à ses apôtres, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais à mon Père. » Ces paroles s'adressent aussi à nous, aujourd'hui. Jésus est notre chef, nous sommes ses membres. Il veut que nous partagions sa gloire. Il disait, la veille de sa passion, « Père, je veux que là où je suis, ceux que vous m'avez donnés y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que vous m'avez donnée. » Oui, réjouissons-nous de ce que notre chef, après de 6 rues de travaux sur la terre, a achevé sa course et jouit d'un bonheur inimaginable. Réjouissons-nous de ce que nous sommes appelés à une telle gloire. Et c'est déjà acquis en puissance. En effet, nous dit saint Paul, Dieu, riche en miséricorde, nous a ressuscités avec lui. Il emploie le passé composé. Nous a ressuscités avec lui. Nous a fait asseoir dans les cieux. C'est comme si c'était déjà fait. Le texte de l'Épître nous donne les 2 bornes entre lesquelles ce mystère de l'ascension doit s'accomplir. La première borne, le jour de l'ascension, accomplie historiquement il y a bientôt maintenant 2000 ans, est le retour de notre Seigneur à la fin du monde. L'histoire de l'humanité se déroule entre ces 2 bornes. Il n'y aura pas des millions d'années. Jusqu'à ce que le dernier des élus étant entré dans les cieux, le corps mystique de notre Seigneur sera complet et ça sera la fin du monde. Ce n'est pas parce que le soleil se refroidira, etc. Non, c'est simplement parce que le corps mystique de notre Seigneur sera complet. Cette joie, pour nous qui sommes encore sur la terre, dans le temps inscrit entre ces 2 bornes, ne va-t-elle pas être anéantie par les malheurs des temps que nous vivons ? Certes, cette joie profonde que nous éprouvons à la contemplation du mystère de l'ascension ne sera parfaite qu'au ciel, lorsque nous aurons rejoint notre Seigneur. Mais ici-bas, cette ascension de notre Seigneur nous procure une espérance invincible pour 2 raisons qui sont propres à nous réconforter. Tout d'abord, au ciel, nous avons un pontife suprême qui intercède pour nous. Le jour de l'ascension, en pénétrant dans les cieux et en venant s'asseoir à la droite du Père, Jésus accomplit en réalité ce que figurait le grand prêtre du culte de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez votre histoire sainte ? Le temple de Jérusalem comportait 3 parties. Le parvis où se tenait le peuple, le saint où officiaient les prêtres, et enfin le saint des saints, séparé du saint par un rideau, où se trouvait l'arche d'alliance. C'est là que Dieu demeurait d'une manière toute spéciale, personne ne pouvait voir le Saint des Saints caché par le voile, personne ne pouvait y pénétrer sans mourir, excepté le pontife suprême, qui pouvait y entrer seulement une fois par an, après avoir offert un sacrifice en dehors du sanctuaire pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Et c'est seulement muni du sang de ses sacrifices qu'il pouvait pénétrer sans mourir dans le Saint des Saints. Le pontife y pénétrait avec un habit pontifical, représentant sur sa poitrine le nom des 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire tous les fidèles, tout le peuple fidèle. Eh bien, Jésus a accompli parfaitement ces figures. Après avoir versé son propre sang une fois pour toutes, pour tous les péchés de l'humanité, il pénètre dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans le ciel, où se trouve la divinité. Mais à la différence de l'Ancien Testament, où le pontife pénétrait seul, notre Seigneur n'y pénètre pas seul. Il nous emporte avec lui dans les cieux, en droit et en espérance, à travers le voile de son humanité. Et cela a été signifié par un miracle à la mort de Jésus. Vous vous rappelez, lorsque Jésus clouait la croix, expire, l'évangéliste note « Le voile du temple, donc qui sépare le saint du saint des saints, s'est déchiré en deux du haut en bas. Désormais, les hommes peuvent pénétrer avec le pontife suprême de la Nouvelle Alliance, Jésus, dans le Saint des Saints, où se trouve la divinité, c'est-à-dire dans le ciel. Au ciel, Jésus, notre pontife suprême, ne reste pas inactif. Il exerce son sacerdoce éternel. Il prie et il intercède pour nous auprès du Père, lui présentant sans cesse son sacrifice, rappelé par ses plaies glorieuses, et il demande sans cesse de nous garder du mal, c'est-à-dire du péché. Le péché qui est le mal, le seul mal que nous devons craindre, puisque seul le péché peut nous séparer de Dieu. Alors rappelons-nous ce que disait saint Paul. « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Or, nous sommes fortifiés par la communion, en recevant notre Seigneur Jésus-Christ glorieux. Appuyons-nous sur lui. Il a vaincu le monde, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. Avec Jésus, il n'y a aucune tentation que nous ne puissions craindre, aucune difficulté que nous ne puissions surmonter, aucun esclavage dont nous ne puissions nous détacher. Appuyés sur Jésus, notre pontife suprême, nous avons la ferme espérance de pouvoir traverser ce monde corrompu et pervers pour parvenir sains et purifiés à la place qu'il nous a préparée dans le ciel. Mais il y a un deuxième motif d'espérance. Nous avons au ciel un roi tout-puissant qui règne sur tout l'univers. Le jour de l'ascension, Jésus est couronné de gloire. Sa royauté n'est pas inactive. Il a été établi par le Père, juge des vivants et des morts. Mais il reçoit aussi le pouvoir royal sur toutes les nations de la terre. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Les rois de la terre ne règnent légitimement que par lui. Et c'est ce que venu rappeler sainte Jeanne d'Arc à un moment critique de notre histoire. L'étendard qu'elle a fait broder est une affirmation éclatante de la royauté universelle du Christ, et plus spécialement de sa royauté sur la France. Jésus y est représenté sur les nuées du ciel avec les plaies glorieuses. C'est donc Jésus, glorieux dans le ciel. Il tient la terre dans sa main gauche. Et de la droite, il bénit la France qui lui est présentée sous la forme d'un lys. Et une colombe tient dans son bec une banderole portant ces mots « De par le roi du ciel ». C'est tout un programme. Vous me direz, tout cela est bien beau, mais depuis 200 ans, notre Seigneur ne règne plus, et de moins en moins. Effectivement, depuis la Révolution, ce que prédisait le psalmiste s'est réalisé. Les nations frémiront sous son sceptre, nous dit-il, les peuples, pour y échapper, méditeront de vains projets, les princes de la terre se ligueront contre lui. Ils diront, brisons son joug et jetons-le loin de nous. Nous assistons à cela à notre époque. Mais vains efforts, car le psalmiste poursuit, le Seigneur se rira d'eux. En effet, nous dit saint Paul, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait fait de ses ennemis l'escabeau de ses pieds. Alors ses ennemis actuels sont nombreux. Ils veulent construire le mondialisme sans Dieu. Eh bien, ils construisent un immense escabeau sur lequel notre Seigneur posera ses pieds et dominera. Don Guéranger fait remarquer que notre Seigneur règne sur ceux qui le rejettent. Non pas dans les lois, etc., puisqu'il le rejette, mais en les soumettant à sa justice. Le pouvoir des ennemis de Dieu est éphémère, il ne dure pas. Il conduit à l'anarchie, au chaos. Jusqu'au jour où les hommes, lassés de ce chaos, rappelleront notre Seigneur pour qu'il règne. Pour qu'il règne par ses chefs, dans les lois et dans les institutions. En ce jour de l'Ascension 2019, qui coïncide avec la fête de Sainte-Jeanne d'Arc, notre Seigneur ne peut-il pas nous faire espérer pour un avenir proche qu'il va venir régner dans notre pays en donnant à Sainte-Jeanne d'Arc le feu vert pour accomplir sa mission posthume? Et cette mission posthume consiste, de l'avis unanime de ses contemporains, et des experts de Sainte-Jeanne d'Arc, à étendre par la France le règne de notre Seigneur Jésus-Christ à toutes les nations. Cela arrivera. Fort de ces deux motifs d'espérance, notre pontife dans le ciel, notre roi, demandons à la très sainte Vierge Marie de vivre comme elle après l'Ascension, en esprit, dans le monde céleste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.